Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
L'immigration à l'agenda des ministres européens de l'Intérieur. Au Luxembourg aujourd'hui, ils ont notamment débattu du transfert des migrants illégaux dans des pays en dehors de l'Union européenne. L'Italie a déjà ouvert deux centres d'accueil en Albanie. Un exemple à suivre, estime Bruno Retailleau.
Toutes les solutions innovantes doivent être utilisées et il y a des exemples qu'il faudra bien entendu évaluer. Mais la France accueillera toutes les solutions avec beaucoup d'attention.
Le nouveau ministre de l'Intérieur durcit le ton sur l'immigration. Dans une interview aux Parisiens, il affirme vouloir reprendre le contrôle, régulariser au compte-gouttes et augmenter le nombre d'expulsions. Presque trois semaines après le meurtre de Philippine, 19 ans, tué par un ressortissant marocain sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, Bruno Retailleau a reçu mardi place Beauvau 21 préfets représentant des départements qui délivrent à eux seuls 80% des OQTF.
Nous avons reçu un message de fermeté qui nous a dit « Messieurs les préfets, battez-vous pour reconduire les personnes pour lesquelles vous prenez des OQTF ». Et la consigne, c'est d'être intraitable avec les étrangers en situation irrégulière.
Actuellement, seuls 7% des OQTF délivrés sont exécutés, un chiffre qui interroge dans les rangs de la gauche.
On prononce beaucoup d'OQTF en France.
On en prononce trop.
Probablement, aujourd'hui, d'avoir 130 à 140 000 OQTF qui sont prononcés ces dernières années en France, on est à 50, 60 000 dans les pays voisins. Et il y a l'impossibilité de les exécuter pour partie parce qu'il n'y a pas les laissez-passer consulaires.
Bruno Retailleau compte y remédier en faisant pression sur les pays d'origine des OQTF qui tardent à délivrer les laissez-passer comme l'Algérie et le Maroc. Alors le tour de vis du ministre de l'Intérieur va-t-il se traduire par une inflation des reconduites à la frontière? La France doit-elle réguler l'immigration à coup d'expulsion?
Nos trois invités, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur de la publication du site atlantico.fr.
Bonsoir.
Bonsoir. Selon vous, si la France est la plus mauvaise élève en Europe quant à l'exécution des OQTF, c'est parce que la France a de très mauvaises relations diplomatiques avec des pays comme l'Algérie, vers lesquels ces étrangers doivent être expulsés. À côté de vous, Didier Lesky, bonsoir, directeur
bonsoir.
De l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes l'auteur de « Ce grand dérangement, l'immigration en face » paru chez Gallimard. Selon vous, savoir si on délivre trop ou pas assez d'OQTF est une fausse question. La vraie interrogation, selon vous, Didier Lesky, c'est de savoir s'il faut renvoyer des gens ou pas vers leur pays d'origine. Quant à l'idée de renvoyer des étrangers vers des pays de transit, c'est sur la table dans beaucoup de pays européens, on y viendra au cours du débat. Et Magali Lafourcade, bonsoir madame, magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Selon vous, le QTF, c'est le couteau suisse de la lutte contre l'immigration illégale et on en délivre pour tout et n'importe quoi. Comme Bruno Retailleau sait, ajoutez-vous, qu'il aura du mal à augmenter les expulsions, il déplace le curseur sur la question des régularisations qu'il veut réaliser au compte-gouttes, je ferme les guillemets. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour.
Oui, très précis, hein, puisqu'en 2023, 137 700 étrangers ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, un record en Europe. C'est trois fois plus, on va le voir sur la carte, qu'en Allemagne, par exemple, et cinq fois plus qu'en Italie. Magali Lafourcade, alors vous dites que c'est le couteau suisse de la lutte contre l'immigration illégale, que c'est aussi parce que les critères sont plus larges qu'on a ce record européen.
Alors je ne suis pas sûre que ce soit parce que les critères sont plus larges, puisqu'il y a quand même 90 000 recours sur ces 137 000 OQTF qui sont délivrés. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des inquiétudes sur les critères de la loi, le respect de ces critères-là. Et finalement, on voit que ces OQTF sont délivrés sans avoir eu au préalable un examen approfondi de la situation de la personne. Du coup, ça fait que 40% du contentieux devant les tribunaux administratifs, c'est du contentieux des étrangers. C'est très contesté. On délivre des OQTF sans même savoir si les pays d'origine seront aptes ou voudront bien récupérer leurs ressortissants.
C'est pas parce qu'on a plus d'immigration illégale en France, c'est un peu naïvement, on se dit ça peut-être en première intention.
Non, quand on voit la part que prend la France par rapport à un pays comme l'Allemagne, on est quand même très moins disant. Donc c'est plutôt qu'on fait le choix d'en faire un couteau suisse et qu'on délivre très massivement des OQTF sans se préoccuper de savoir si elles sont ne serait-ce que exécutables.
Alors Sébastien Ferjou, il y a un engorgement dû justement à ces critères, c'est presque de la communication politique
parce qu'on n'a pas d'autres leviers sur l'immigration ? Comment vous l'expliquez ?
Ça relève certainement de la communication politique, parce que si on regarde, en tout cas, moi je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens d'envisager les OQTF comme un moyen de réguler des flux migratoires. Si on veut réguler des flux migratoires, c'est sur la question des entrées qu'il faut agir, pas tellement sur la question des sorties, puisque pour tout tas de raisons, parmi celles que vous venez d'évoquer, on a de toute façon de la peine à les faire réaliser. Maintenant, Bruno Retailleau, je pense, est quand même dans son rôle en tant que ministre de l'Intérieur. Ce qu'il faisait aussi hier, c'était de s'adresser aux préfets. Il y a un certain nombre de préfectures qui sont plus ou moins familières avec les procédures, parce qu'il y a différentes... Et vous le disiez, oui, c'est un couteau suisse, mais enfin, à minima, je pense que c'est un vrai sujet politique et même démocratique. Faire exécuter des obligations de quitter le territoire quand les personnes qui sont concernées sont des personnes qui ont été condamnées et ou qui sont considérées comme dangereuses...
Mais elles sont très peu nombreuses en même temps. C'est ce qu'on a découvert en préparant cette émission. 5000 personnes seulement sont visées par une OQTF en sortant de prison. Sur 130 000, on s'attendait...
Parce que les autres, c'est parce qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Mais je pense que l'enjeu central dans le débat actuel, c'est de faire exécuter celles qui concernent les gens et qui sont en général les plus dangereux sont aussi ceux qui sont en centre de rétention administrative.
Comment se fait-il ? Est-ce qu'on peut, avec vous Didier, est-ce qu'il comprend la géographie de ça ? 21 départements seulement pour 80% de ces OQTF. Comment ça s'explique ?
Parce que
on a la carte. Hein.
Voilà, c'est la carte aussi de ceux des immigrations. Les immigrations
des arrivées
viennent là où il y a déjà des immigrants. Il peut y avoir des solidarités communautaires. Voilà, et c'est comme ça que ça se fait. Et c'est pour ça que vous avez l'Île-de-France, vous avez les bassins traditionnels d'immigration, le Nord, Cap-Pas-de-Calais, Marseille, etc. Voilà. Il faut faire attention quand même dans le débat, parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions. Les OQTF, ça n'a pas toujours existé en France.
Ça remonte à quand ?
Ça remonte au moment où on a transposé la directive retour, c'est-à-dire dans les années 2000. Et la directive retour indique et demande à tous les pays européens de l'Union de faire en sorte que personne ne soit sans statut juridique. Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et la difficulté de la comparaison, c'est qu'il y a des pays où on n'enregistre pas l'ensemble des personnes qui arrivent. L'Italie, par exemple, c'est un exemple qu'on connaît bien. C'est pour ça que quand on dit qu'il n'y a que 42 000, ça n'a pas de sens, puisque s'ils n'enregistrent pas les personnes, eh bien évidemment, il n'y en a que 42 000 qui ont une OQTF. L'Allemagne a une catégorie que nous avons abandonnée, mais qui a fait beaucoup de débats pendant très longtemps, c'était les non-expulsables, non-régularisables. Voilà. Et donc, la question qui est posée par la directive retour, c'est qu'on ne peut pas être dans une situation de nini. Donc, on est soit régularisé, soit en obligation de quitter le territoire. Et je rajoute, et on oublie souvent, c'est que la question de l'OQTF n'est pas simplement un problème, un sujet franco-français, puisque les personnes qui ont des OQTF peuvent être après enregistrés dans le fichier Schengen, puisque la question qui est posée, c'est pas simplement qu'ils ne restent pas qu'en France, c'est qu'ils quittent l'Union.
Voilà. Européenne.
Et là où la France a sans doute une difficulté, et c'est pour ça que les chiffres sont un peu compliqués, j'ai entendu
7%. Mais est-ce qu'il y en a trop ou pas ? Est-ce qu'il y en a trop quand même ? Parce que la Cour des comptes disait en janvier 2024, la Cour des comptes, il y a un enjeu de communication administrative. Voilà ce qu'elle dit.
L'enjeu de communication administrative pointé par la Cour des comptes, c'est le fait que les fichiers ne communiquent pas, qu'on refait plusieurs fois les procédures, que d'une certaine manière, on n'a pas mis en place l'ensemble des dispositifs pour être plus efficient dans la reconduite. Par exemple, la Cour des comptes nous dit c'est un peu absurde qu'à Nantes, il n'y ait pas de centre de rétention administratif et que les policiers soient obligés d'emmener la personne à Rennes et puis une fois qu'elle est à Rennes pour la faire prendre un avion, soient obligés de l'emmener à Roissy, si vous voulez. Et donc, la question n'est pas celle-là. Et du reste, quand on dit 7% d'exécutables, comme
vient de dire... Entre 30% en moyenne dans les autres pays européens.
Oui, mais là encore, c'est d'abord, la base est fausse. Pourquoi elle est fausse ? D'abord parce qu'il faut que l'OQTF soit purgé de l'ensemble des recours. Et naturellement, les personnes ont le droit à un recours. La deuxième chose, c'est qu'on ne calcule que ceux qui sont en reconduite forcée. Mais par exemple, l'Office fait plus de 6000 départs volontaires. Ce sont des personnes qui ont des OQTF et donc qui pourraient se rajouter à ces fameux 7%. Quand on ajoute l'ensemble, on est plutôt à 40% d'exécutés.
On va évoquer avec vous trois, et avec vous Anna, les difficultés que rencontre la France dans l'exécution de ces OQTF à cause de ses relations complexes avec certains pays dont sont originaires les expulsés, notamment l'Algérie.
Exactement, le Maroc et l'Algérie sont les deux pays qui comptent le plus de ressortissants sous le coup d'une OQTF en France, selon les dernières statistiques d'Eurostat. Et ces deux pays, précisément, ne délivrent pas toujours en temps et en heure les laissez-passer consulaires qui permettent donc de renvoyer un étranger arrivée sans passeport dans son pays d'origine. Et d'ailleurs, un rapport parlementaire de 2023 montre qu'en 2021, l'Algérie est le pays le moins coopératif à ce sujet, avec seulement 6% de laissez-passer consulaires délivrés dans les délais. Et plus précisément, sur plus de 20 000 OQTF prononcés, seuls 754 ont été exécutés. Donc c'est vraiment très faible. Et en réponse à ce blocage des laissez-passer, eh bien la France, cette même année, a mis la pression sur l'Algérie en restreignant l'octroi de visas. Et donc cette brouille a duré pas loin d'un an. Et à cela viennent régulièrement s'ajouter d'autres tensions diplomatiques au sujet du Sahara occidental notamment, qui viennent perturber ou rallonger l'obtention de ces laissez-passer. Jean-Sébastien Ferjou, Bruno Retailleau a laissé entendre qu'il pourrait de nouveau faire pression sur l'Algérie en délivrant moins de visas. Est-ce que c'est la bonne méthode pour obtenir ces laissez-passer consulaires qui sont nécessaires?
On voit qu'il y a très clairement une mauvaise volonté de l'Algérie pour envoyer les laissez-passer consulaires. Après, il y a aussi parfois un manque d'organisation française. Vous parliez du rapport sénatorial, il constatait que dans un certain nombre de cas, l'administration s'y prend trop tard, demande au dernier moment, juste avant que les magistrats doivent se prononcer sur les statuts des personnes.
C'est d'ailleurs ce qu'a dit le Maroc récemment. Il renvoie à la bureaucratie française.
Oui, voyez ce qui s'est passé, vous y faisiez référence. Le Sahara occidental, le 30 juillet dernier, la France a changé de position diplomatique vis-à-vis du Sahara occidental.
Emmanuel Macron,
en reconnaissant finalement que le Maroc avait une légitimité sur le Sahara occidental, ce qui est un vrai renversement de posture depuis les années 50. Pourquoi l'avons-nous fait? Parce que nous essayons justement d'avoir de meilleures relations avec le Maroc. Pourquoi ne le faisions-nous pas avant? Parce que nous essayons d'obtenir de bonnes relations avec l'Algérie. Et puis d'une certaine manière, j'imagine qu'on a constaté que, quels que soient les efforts réalisés sur ce terrain, comme sur d'autres d'ailleurs, ça ne produisait pas beaucoup d'effets. Donc oui, il y a cette question-là. Maintenant, le Maroc se montre, me semble-t-il, plus coopératif. Il y a un autre dilemme qui se cache derrière ça. Gérald Darmanin le disait ouvertement. Il faut parfois arbitrer, quand on est ministre de l'Intérieur, entre le bras de fer avec les pays en question et la lutte antiterroriste, puisque les pays en question, à commencer par les services de renseignement marocains, sont bien souvent des alliés précieux pour la France, pour déjouer un certain nombre d'attentats. Et donc, il faut arbitrer finalement entre ces injonctions.
Magali Lafourcade, est-ce qu'il faudrait que Bruno Retailleau fasse une tournée, par exemple, dans tous les pays du Maghreb, justement pour résoudre ce problème?
On voit en fait la limite de prendre le sujet de la migration, de la lutte contre la migration illégale, que sous le prisme policier, qui est celle de M. Retailleau, l'ordre, sauf qu'en fait, c'est qu'une partie du problème. Les préfectures sont surengorgées par cette politique du chiffre de délivrer des OQTF. Elles n'ont pas les moyens de faire le boulot correctement, donc il y a aussi des droits fondamentaux qui sont bafoués.
Donc par quel prisme le prendre?
Faut le prendre de manière très interministérielle. Il faut qu'il y ait une diplomatie autour de ça.
Donc le ministère des Affaires étrangères
chargé. Les pays avec lesquels on a des difficultés, ça ne vous aura pas échappé, c'est des pays qui sont des anciennes colonies françaises avec lesquelles il y a encore des grandes crispations. Les choses ne sont pas apaisées.
Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement dénoncer l'accord de 68 conclu avec l'Algérie, par exemple, Didier Leschi, qui facilite, rappelons-le, l'obtention de titres de séjour?
D'abord, vous avez eu raison de rappeler les chiffres, mais il y a d'autres chiffres qu'il faut donner. L'Algérie, c'est 200 000 visas par an. Le Maroc, c'est même un peu plus. Le Maroc, c'est un des pays qui a plus de visas que la Chine, si vous voulez, pour une population qui n'est pas exactement la même, vers la France. La France, c'est le premier pays d'Europe en termes de demande de visa. On est un pays ouvert.
L'Algérie, en raison des liens historiques que nous avons avec ce pays.
Non, mais globalement, l'Algérie, c'est plus de 30 000 nouveaux titres de séjour tous les jours. L'année dernière, c'est 31 000.
Tous les jours?
Tous les ans.
Tous les ans, oui.
L'année dernière, c'était 31 000 et le Maroc, c'était 36 000. Oui. Donc, on est un pays qui est ouvert à la migration tant marocaine qu'algérienne.
On le facilite avec l'Algérie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'accord de 68 tant sur la table, tant polémique.
L'accord de 68, c'est un problème un peu complexe, d'abord parce qu'il ne faut pas oublier...
Simplifiez-le.
C'est simple. L'accord de 68 est d'abord un accord pour limiter l'immigration algérienne en France. Pas pour la faciliter.
Pour vous, c'est l'inverse de ce qu'on dit qu'elle est aujourd'hui.
Non, mais je ne sais pas qui dit la chose.
Par exemple, par rapport au Maroc.
C'est pour ça que dans le débat, il y a quelque chose qui est juridiquement complexe pour lequel je n'ai pas d'avis. C'est de savoir si on revient à 1962. Et 1962, c'était théoriquement la liberté de circulation entre les deux rives. Sauf que les Algériens ne l'ont pas appliqué. Et voilà. Et que l'essentiel de l'immigration algérienne en France est arrivé après l'indépendance. Après 1962. Et c'est parce qu'elle arrive massivement qu'en décembre 68, il y a la volonté de réduire cette immigration tout en donnant aux Algériens des avantages que d'autres n'ont pas, parce que les Algériens considèrent qu'ils doivent être traités différemment que les autres.
On entend sur l'accord de 68, mais c'est vrai que ça, c'est un débat en soi. Est-ce qu'il y a une autre question d'option qui se pose aujourd'hui, qu'a soulevé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans son interview, c'est des pays de transit pour les étrangers qu'on ne peut pas expulser vers leur pays d'origine. C'est ce que fait l'Italie avec l'Albanie aujourd'hui. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que pour vous, c'est une possibilité, une option qu'il faut étudier de près ?
Déjà, il faut trouver les pays qui accepteraient de le faire. Ensuite, me semble-t-il, il y a un certain nombre de difficultés juridiques qui peuvent se poser. Le Danemark avait envisagé, alors le Royaume-Uni avait envisagé de le faire avec le Rwanda. Même pour le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, ça n'était pas aussi évident que ça, parce que le Royaume-Uni continue à adhérer à la Cour européenne, enfin à la Convention, mais bref, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça posait des problèmes. Ils ont renoncé au projet. Le Danemark a envisagé de le faire aussi, mais le Danemark avait négocié, avant la signature du traité de Maastricht, des dérogations sur le volet de l'immigration.
Donc vous dites encore de la com' de la part de Bruno Retailleau ?
Ben, c'est-à-dire qu'on voit bien, il y a un sommet sur l'immigration la semaine prochaine à Bruxelles. On voit bien, vous voyez bien comme moi, ce qui se passe ailleurs en Europe. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Italie, hein, sans parler de pays de l'Est européen comme la Pologne et autres, ne veulent, enfin, ou en tout cas, veulent vraiment restreindre l'immigration. Donc je pense qu'en l'état, juridiquement, c'est compliqué. Maintenant, ben, il y a justement un sommet européen. Alors après, est-ce que nous sommes capables de trouver un accord à l'unanimité sur les traités? Ça reste, à mon sens,
est-ce que ça vous choque?
Oui, parce que c'est contraire au droit de l'asile, puisque le droit de l'asile impose donc qu'on peut faire sa demande de manière inconditionnelle dans le pays qu'on souhaite, et aussi que pendant la période où on est demandeur d'asile, on puisse avoir des conditions décentes. Or, tout ce que ça pose comme question, c'est quels sont les liens avec ces pays qu'on appelle des pays tiers sûrs ? Est-ce que les personnes ont un lien avec l'Albanie ? L'Italie ne l'a pas encore mis en place, ils y songent, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder avec énormément d'inquiétude, et de toute façon, on a quand même, on vient d'adopter au niveau européen un pacte asile et immigration qui doit entrer en vigueur en 2026. Ce serait pas mal que pour une fois, on met en œuvre, on regarde ce qui se passe et qu'après, on ajuste s'il y a des besoins. Mais c'est pareil, on a adopté une loi en janvier de cette année qui a explosé quand même le bloc central. Ce serait pas mal que déjà tous les décrets d'application soient mis en œuvre avant que M. Retailleau ait une superbe idée pour pouvoir refaire une loi.
Vous n'êtes pas d'accord avec quoi ?
Non, c'est pas ça. C'est que ce qui est en train de se passer, c'est justement le prolongement du pacte migratoire qui vient d'être adopté. Il y a une quinzaine de pays qui aujourd'hui sont rassemblés et réfléchissent sur la mise en place, en réalité, de situations juridiques un peu particulières qu'on peut appeler pays tiers, mais qui est dans le prolongement du pacte. Et du reste, le pacte prévoit déjà que les demandeurs d'asile ne rentreront pas formellement, même s'ils sont sur le territoire européen, en Europe, puisque ça sera des zones qui ne seront pas juridiquement l'Europe. Et ce que fait l'Italie, ce n'est pas ce que voulait faire l'Angleterre. Là, il faut pas
ce que fait l'Italie avec l'Albanie.
Oui, avec l'Albanie. Il ne faut pas oublier qu'en Méditerranée, les premiers secouristes, c'est la marine italienne. Et donc, leur dispositif, c'est de prendre les personnes dans les zones internationales, de les emmener en Albanie dans une fiction juridique qui, effectivement, reste à vérifier du point de vue de l'ensemble du droit européen. Mais cette fiction juridique, c'est qu'ils seraient malgré tout en Italie, même s'ils sont physiquement en Albanie, ce sont des officiers de protection italiens qui les entendraient, et c'est eux qui feraient le partage.
Alors, il y a une autre option évoquée, aide au retour, comme ça avait été mis en place en 84 en France. C'était une idée de Lionel Stoleru, appliquée par François Mitterrand. Somme allouée, à l'époque, c'était 20 000 francs. Regardez. Notre archive.
Donc, à la veille de ce long week-end, qu'on vient de connaître les conditions de l'aide au retour des travailleurs immigrés. Le sondage réalisé chez Citroën a révélé que 5% seulement des travailleurs de cette entreprise sont prêts à retourner chez eux avec cette prime.
Lui, il a l'idée de retour, mais c'est lent, hein, compte tenu des problèmes de famille, de scolarité, etc. Les gens sont plutôt liés. Voilà, mais le retour, bon, ça touche une petite minorité, je pense même une extrême minorité, ça va se préciser. Et je crois qu'on ferait mieux plutôt de parler d'autre chose que du retour en ce moment. Hein. Les gars, ils ont l'impression que c'est de la marchandise, ça veut dire on vous donne 80 000 ou on vous donne 60 000, et puis vous retournez, alors que dans leur esprit, ils ont acquis des droits ici. Hein.
Jean-Sébastien Ferjou, on a utilisé, on a essayé, ça n'a pas marché, ça, par exemple.
Je crois que ça visait des populations différentes, des populations qui étaient venues avec des contrats de travail, que nous étions allés chercher justement au Maroc. Il y avait des campagnes de recrutement à l'époque. Ça n'a pas grand-chose à voir avec là des gens qui seraient venus de manière illégale en France. Donc je pense que la situation juridique, elle est totalement différente. La Suède est en train d'envisager de le faire, en envisageant, me semble-t-il, 30 000 euros. Je suis très réservé. Je pense que c'est une machine à alimenter les mafias et les trafics humains. point, encore une fois, je pense que c'est de toute façon gérer le problème par le point d'arrivée plutôt que par le point de départ. Par ailleurs, la politique déployée par le gouvernement suédois a abouti alors, à des chiffres qui ont été eux-mêmes contestés en Suède, mais quoi qu'ils en soient, ils indiquent une tendance nette. L'année dernière, le solde migratoire suédois était négatif, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui étaient repartis que de gens qui étaient arrivés. Alors, peu importe que ce soit tout à fait juste statistiquement, ça montre de toute façon une diminution majeure de l'immigration en Suède. Donc ça montre bien que le signal envoyé par les pays de départ, il est quand même reçu par les immigrés. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis entre le mandat de Donald Trump et celui de Joe Biden, qui en substance ont maintenu quasiment les mêmes politiques. Hein. Et Donald Trump n'avait pas construit ou très peu construit le mur avec la frontière mexicaine. Mais le fait d'avoir affiché le refus par les États-Unis finalement d'accueillir de nouveaux migrants avait freiné les flux et d'ailleurs contribué à rediriger un certain nombre de flux vers l'Europe puisque des gens d'Amérique latine, souvent bénéficiés de la nationalité espagnole via leurs ancêtres, avaient commencé à se rediriger vers l'Europe. Donc, le signal envoyé.
C'est le signal que va envoyer Bruno Retailleau. Il dit aujourd'hui qu'il y a 500 000 immigrants en situation régulière qui sont au chômage en France. Est-ce que ça, on peut l'entendre ? C'est pour lui aussi une manière de dire je vais revoir la circulaire Valls qui permet aussi de faciliter la régularisation pour motif de travail. Est-ce le cas ?
Eh bien, là aussi, il y a une grande hypocrisie. C'est-à-dire que, comme tous les nouveaux ministres de l'Intérieur, ils font des coups de menton. Ils ont toujours la même rhétorique. Ça ne vous a pas échappé. Et là, sur la régularisation, il faut quand même voir qu'il y a eu un appel des patrons au moment du grand débat sur la loi immigration pour dire on a besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a des secteurs qui ont besoin, les métiers en tension, c'est exactement. Ça.
Laquelle ?
Et puis il y a aussi, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le ministre de l'Intérieur, c'est aussi le ministre de la bonne application du droit. Or, il y a des secteurs d'activité dont le business model, c'est d'utiliser une main-d'œuvre qui est du travail dissimulé, du travail au noir, et qui donc sont des gens qui sont très mal payés et qui acceptent des conditions de travail abominables. Et ça, c'est fait dans cette idée de ne pas régulariser ces populations, c'est les maintenir dans cette situation de dépendance vis-à-vis d'un employeur tout puissant.
Certes, et ça, c'est très dangereux. Bruno Retailleau dit qu'il y a 500 000 immigrés en situation régulière, on ne parle pas mais qui sont au chômage en France. Est-ce que ce chiffre, pour vous, est avéré ? Est-ce qu'il peut justifier, justement, quand une approche de l'immigration économique différente au regard de ce sujet, en disant, voilà, il y a des gens qui sont là, qui ont besoin de travail, les patrons demandent à ce qu'il y ait plus d'immigration, mais ils n'utilisent pas cette manœuvre qui est disponible.
De toute façon, on a un problème d'intégration et il faut être beaucoup plus dynamique sur l'intégration de ceux qui sont là de manière légale. Et il faut le faire d'autant plus que plus de 30% des immigrés dans ce pays vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et quand on regarde pour certaines nationalités, on arrive à 45-47%. Et donc, il y a un besoin. Et ça renvoie, du reste, ces problèmes d'intégration à cette fameuse prime de départ. Pourquoi la gauche met en place cette prime de départ en 1984 ? Parce que c'est le moment de la crise industrielle et qu'on essaye de trouver une solution alors qu'on rentre dans une période de progression forte du chômage. Voilà. Mais après, bien sûr, on ne peut pas avoir une politique qui est, comme vient de le dire Magali Laforcade, de faire venir des gens qui vont être sous-payés et de laisser sur le bord du chemin des gens qui sont ici et qu'on n'accompagne pas vers l'autonomie, vers la décence et vers la dignité du travailleur.
Donc vous êtes d'accord avec cet impératif autour de l'intégration et aussi que réguler au compte-gouttes, c'est une formule creuse ?
Déjà, la régularisation uniquement sur critères économiques, ça me paraît assez absurde. Vous pouvez avoir un emploi et ne pas du tout respecter les valeurs françaises. Hein. Et il me semble quand même qu'on peut difficilement ignorer les deux volets de l'équation. Oui, l'économie française et un certain nombre de secteurs ont besoin de travailleurs. Après, ne soyons pas hypocrites non plus. Est-ce que c'est décent, est-ce que c'est humain de faire venir des gens uniquement parce qu'on sait qu'on va pouvoir les exploiter plus que leurs voisins ? D'autant que dans ce qu'on voit des trajectoires de personnes immigrées en France, une fois qu'ils arrivent à obtenir des papiers ou à être plus intégrés, ils se comportent et c'est parfaitement normal comme des Français. Donc ils n'acceptent plus non plus les mêmes emplois. Donc la réflexion qu'il faut que nous ayons, elle est sur notre capacité à avoir des emplois qui permettent une bonne intégration économique et sociale et aussi quand même avoir un minimum d'exigences, parce que ça n'était pas le cas dans la circulaire Valls, vis-à-vis de critères, ou alors ça l'était de manière assez minimale, de critères d'intégration culturelle et politique.
Très bien, merci à tous les trois d'avoir participé. Nous referons un débat d'ici quelques semaines. Dans l'heure, nous restons pour l'heure, pardon.
Le diable est dans les détails.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.